Voilà, bonjour à tous. Je me réjouis d'être là ce matin. C'est vrai, c'est un peu bizarre. Ça fait au début de l'année que Marie m'avait demandé si j'étais d'accord d'apporter un message une fois, comme ça, à cette date-là. Alors oui, c'était en ordre. À l'époque, c'était un petit peu moins turbulent chez nous. Je dois dire que si elle m'avait demandé dimanche dernier, j'aurais pas été capable d'apporter quelque chose. Mais ça fait un bout de temps que j'y réfléchis, et voilà. Puis ensuite, pour la louange, il n'y avait personne. Alors on m'a dit, ben tu es d'accord de le faire. Alors voilà, Edmond a dit, je fais avec. Donc je me suis réjoui de faire avec Edmond. Voilà pourquoi je suis là devant, un petit peu envahissant peut-être, mais ce sont les circonstances. L'adage dit que tous les chemins mènent à Rome. Qu'est-ce qui est déjà allé à Rome parmi vous? Beaucoup, pas tout le monde. Alors ceux qui ne sont pas allés, en fait, puisque tous les chemins mènent à Rome, il vous suffit certainement de vous mettre dans le train et puis vous arrivez à Rome, ou d'aller à pied peut-être, c'est un peu long, c'est vrai. Mais nous allons suivre Paul à Rome. Alors, voilà, dans le livre des Actes, avant de parler du texte qui m'a été proposé, je voulais juste situer l'Empire romain dans lequel, au fond, toute cette histoire se déroule. Le rôle de Rome dans l'histoire et la géographie. Alors, l'Empire romain, au IIe siècle, vous en avez une image ici dessus, était peuplé de 50 à 80 millions d'habitants. Pour une si grande surface, ce n'était pas énorme. L'extension, environ 5000 km depuis le Portugal jusqu'à la Syrie, là au bout. C'est plus que de la côte est à la côte ouest des États-Unis. On se rend compte un tout petit peu de la grandeur de cet empire à régner. Et puis pourtant, il y a un empire qui s'est fait là autour, absolument frappant. Et la capitale, Rome, comptait environ 1 million d'habitants. 1 million pour l'époque, c'était énorme. Et c'était la plus grande ville du bassin méditerranéen. On peut imaginer tous les problèmes qu'il y avait d'infrastructures, de logistique, tout ce que vous pouvez imaginer. En Suisse, on n'a pas de ville du million d'habitants, hein, mais on se rend compte un peu les problèmes que cela devait poser. Alors, quelle était la situation des chrétiens de Rome? Tout d'abord, qui en était le fondateur? On n'en sait rien. C'est en tout cas pas Paul, il va le dire dans l'épître aux Romains, des citoyens de Rome, il va leur dire, justement, il n'a pas posé cette église, les bases, il va simplement aller espérer enrichir les contacts mutuels. Alors, dans Acte 2, au chapitre 10, à la Pentecôte, il est question de citoyens romains, donc de la ville de Rome qui était là. Alors, il est tout à fait possible que ces personnes, ayant entendu parler de l'Évangile, les rapportaient plus loin dans la capitale et que ce soit là que l'Église ait commencé. La grandeur, combien était-il? On n'en a aucune idée. J'avais lu un certain chiffre, mais qui doit se situer beaucoup plus tard. À l'époque, 25 environ après les Actes, ça devait être pas tellement grand encore, et surtout pas de basilique Saint-Pierre, là au milieu. Alors, elle était constituée de Juifs et de non-Juifs. Dans quelle proportion? On n'en sait rien. Mais on s'en rend compte un peu dans la lettre aux Romains que la partie juive devait compter un certain nombre de personnes. Alors j'ai repris quelques renseignements de l'Épître aux Romains. Tout d'abord, cette lettre a été écrite autour des années 50-54 à peu près, à Corinthe, 3 ou 4 ans avant le passage de Paul à Rome. Une chose est surprenante, c'est la fin du livre, chapitre 16. Il y a toute une liste de noms que Paul salue là derrière. Et certains se sont dit, mais comment est-il possible qu'il connaisse autant de monde alors qu'il n'avait jamais mis les pieds à Rome? On oublie deux choses. D'une part, il y avait beaucoup de voyages entre dans l'Empire, entre une partie et l'autre. Voilà. Alors moi, je me dis, plutôt que spéculer là-dessus, prenons le texte tel qu'il nous a été donné. Quel était le but de la visite de Paul à Rome? Il en parle dans la lettre aux Romains. D'une part, cela fait partie de sa stratégie. Paul ne s'est pas arrêté tellement dans les petites localités, il est allé essentiellement dans les localités plus grandes, plus importantes, où de là l'Évangile pouvait être transporté et annoncé plus loin. Alors, s'il va à Rome, c'est pour partager quelque chose avec les chrétiens de là-bas. Et puis, il faut se rappeler que Paul n'était pas, pardon, Paul n'était pas encore le Paul qu'on connaît actuellement, qui est co-auteur de la Bible. Donc, dans toute sa lettre, il va défendre en quelque sorte sa compréhension de l'Évangile au sens large. Pas simplement les « convertis-toi », etc. L'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu. Et c'était important parce que dans cette stratégie, donc, il avait prévu d'aller en Espagne. Et deux fois, dans la lettre aux Romains, au début, à la fin, il répète « j'aimerais aller en Espagne et en passant vers chez vous, je profiterai de vous voir ». Donc c'était vraiment un de ses buts. Il dit aussi qu'il a été empêché d'y aller. Mais voilà, c'est quelque chose qui s'est peut-être passé, on le verra tout à l'heure. Dans cette église, il y avait certains problèmes particuliers. On ne va pas faire une analyse de l'épître aux Romains, mais du fait qu'il y avait ce conglomérat en particulier de chrétiens d'origine païenne, comme nous, et d'origine juive, eh bien, il y avait certaines tensions. Et en particulier, on y voit la tension au niveau de la nourriture. Qu'est-ce qu'on peut manger? Est-ce qu'on doit? Est-ce qu'on va choquer? Etc., etc. Et Paul va les enseigner à ce niveau-là. Quand même, donc, il avait entendu parler des problèmes qui étaient là. Mais il termine sa lettre aux Romains, et j'aimerais juste souligner ce texte que j'ai trouvé très beau. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'être bien d'accord entre vous, comme le veut Jésus-Christ, afin que d'un même cœur et d'une seule voix, vous rendiez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. On voit donc de l'humilité, il demande de l'humilité à chacun, et l'accueil qui est là, l'accueil si important pour Paul. Alors, on va pénétrer maintenant dans le texte qui m'était proposé. Tout d'abord, c'est du verset 11 à la fin du chapitre, mais il y a un premier passage, versets 11 à 15. En route pour Malte. Alors, j'ai mis une carte ici, ça vous permet de situer un tout petit peu les arrêts qui sont mentionnés. Vous écoutez simplement le texte. Après un séjour de 3 mois, nous avons gagné le large sur un bateau. C'était donc le séjour auquel Marie faisait allusion tout à l'heure après le naufrage sur l'île de Malte. Il y avait un bateau d'Alexandrie qui avait hiverné dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures, Castor et Pollux, à côté du Cervin. Ayant abordé à Syracuse, nous y avons demeuré 3 jours. De là, en suivant la côte, nous avons atteint Reggio. Le vent du sud s'étant levé le lendemain, en 2 jours, nous sommes parvenus à Pouzolles, dans la baie de Naples, où nous avons trouvé des frères qui nous ont priés de demeurer 6 jours avec eux. C'est ainsi que nous sommes arrivés à Rome. Les frères de cette ville, qui avaient eu de nos nouvelles, sont venus à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes. En les voyant, Paul a rendu grâce à Dieu et il a pris courage. Paul fait ce... Lorsqu'il a écrit l'épître aux Romains, il pensait venir librement. Et puis, oui, il était en chemin pour Rome, mais enchaîné et comme prisonnier. C'est donc dans des circonstances bien différentes qu'il arrive là. Ce qui m'a frappé, c'est ce verset que je reprends. Les frères de Rome, qui avaient eu des nouvelles, sont venus à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes. En les voyant, Paul a rendu grâce à Dieu et il a pris courage. Et c'est ce verset qui m'a intéressé. Lorsqu'on lit le texte, on a l'impression peut-être un peu un catalogue de voyage, n'est-ce pas? On est rallié ici, etc. Mais là, on n'est pas dans le catalogue de voyage. On est au cœur de ce qui préoccupait Paul et de ce qu'il vivait. Et j'aimerais relever ici 3 expressions. Paul remercie Dieu. En voyant ses frères, il remercie Dieu. Paul, il a vécu beaucoup de choses jusque-là, beaucoup de choses difficiles. On va le voir tout à l'heure encore dans la suite des expressions. Et là, j'aime ses frères qui ont fait 60 à 70 kilomètres pour venir à sa rencontre, à pied. Vous vous rendez compte, c'était peut-être 2 jours, 2 à 3 jours de marche, ça dépend de la vitesse à laquelle il marchait, mais il fallait le faire. On ne prend pas la voiture Lausanne-Genève, hein, c'était à pied que ça se faisait, là, long de la côte. Et là, j'aimerais citer quelque chose qui nous touche, nous, personnellement, en couple, Sylvia et moi. Vous savez donc qu'elle est maintenant pour la quatrième fois au CHUV, après diverses péripéties. Lors d'une de ces, au mois de mars, nous avons eu à la maison la visite d'un ami, Ulrich. Ulrich était un jeune qui avait travaillé à la Ligue il y a déjà bien longtemps. Il avait 17 ans alors, il a plus de 50 maintenant. Vous voyez le temps qui a passé entre deux. Peut-être que Marie-Lise se souvient d'Ulrich. Ulrich était un jeune, il venait d'Allemagne, mais il était suisse. Il est retourné chez lui, il a fait des études d'infirmier. Ensuite, il s'est spécialisé, il est devenu l'infirmier, disons, dans la salle d'opération qui tend les instruments. Comment on appelle déjà ça, Barbara ? Instrumentiste, hein ? Voilà, instrumentiste. Puis ensuite, il s'intéressait à la théologie, alors il a fait une école de théologie, en fait. Il a fait la faculté de Berne. Puis ensuite, il a fait un doctorat en théologie, ça il y a 3 ou 4 ans. Et maintenant, il est dans une église dans le canton de Bâle-Campagne. Il est pasteur là-bas depuis plusieurs années. Et puis, on avait échangé différentes choses. Et c'était juste après la première hospitalisation de Sylvia. Et il nous a dit quelque chose qui nous a beaucoup encouragés et je désire le partager avec vous. Il nous a dit, moi, dans ma communauté, et c'était au mois d'automne dernier, on avait un concert à donner 2 fois dans le concert de la paroisse. La deuxième fois, une personne qui chantait est venue me dire, écoute, je peux pas chanter, je me sens beaucoup trop mal. OK? Et puis elle est allée voir un médecin qui a diagnostiqué un cancer du cerveau. Vous vous rendez compte de la situation, la réaction du couple, la réaction d'elle-même, c'était vraiment terrible, apprendre cela. Alors, c'est un peu la plongée. Et puis Ulrich, mon ami, est allé les voir. Elle leur a dit une chose. Vous vivez des choses très difficiles. Il est évident que le Seigneur peut vous guérir comme ça. C'est évident, sa puissance n'a pas de limite. C'est tout à fait vrai. Mais moi, je vous encourage à voir les petits miracles. Pas les choses extraordinaires, mais les petites choses du jour après jour, un pas après l'autre. Voir ces clins d'œil de Dieu, là au travers, ces petits miracles. Alors, j'aimerais juste en citer un seul, pour ce qui concerne Sylvia. C'était sa première ou deuxième visite, je ne me rappelle plus. Le médecin qui s'occupait de l'étage est venu vers elle. Et puis, il lui a dit, « Bonjour, Madame Glor, vous me reconnaissez ?»« Non. »« Vous ne me reconnaissez pas ?»« Non. »« Mais je suis Denis. » »« Denis. » »« Denis était un élève de ma femme à Épalinges. » Et mon épouse s'était assez occupée de lui dans différentes circonstances. Elle en a gardé une reconnaissance énorme. Il était là, il avait rencontré du reste une fois mon épouse, une fois sur la rue, puis il l'avait embrassé comme ça. Dire qu'il était resté quelque chose de ce que mon épouse avait pu lui transmettre, quand bien même il était enfant, il avait 8-9 ans là autour. Donc, quelque chose de positif, 50 ans après, à peu près, pas tout à fait, mais pas très loin, ce souvenir est resté. Et pour Sylvia, c'était un très grand encouragement. Il y a quelqu'un qui est là, mais je ne suis pas anonyme. Quelqu'un est là qui prend soin de moi à quelque part. Et ce médecin, il est encore en service. On l'a rencontré encore vendredi ou samedi avec Sylvia. Il prend un soin particulier de mon épouse. Et j'en suis très reconnaissant. Parce que dans tout ce qu'elle vit, il y a énormément de choses. Mais il a pris à cœur. Elle essaye de voir comment l'aider. Alors, c'est un peu particulier. C'est vrai, on n'est pas tous enseignants. Mais tous, nous avons certainement des petites choses comme ça. Soyons attentifs. Un voisin, un téléphone, une lettre, que sais-je, la lecture de la parole, dans lesquelles le Seigneur veut nous encourager au travers de petites choses, les petits miracles. Je pourrais vous en citer bien d'autres, mais je vais m'arrêter là, parce que ce n'est pas nous qui sommes au centre, c'est l'œuvre de Dieu. Et puis, il est dit, par ce fait, Paul reprend courage, et cela m'a frappé. Tout à l'heure, Marie a lu le texte dans lequel lui encourage les autres. Et ici, c'est lui qui reprend courage. Paul, le grand Paul, co-auteur de la Bible, mais ça, il ne le sait pas encore. Eh bien, il reprend courage parce que des gens sont venus l'encourager. Et là, il me semble qu'il y a un fait qui est très important. On voit que Jésus lui-même a été encouragé à Gethsémané. Un ange vient à ce moment-là pour le fortifier. Et Paul n'est pas au-dessus des nuages tels qu'on l'imagine. L'importance de l'accueil, l'importance de tendre la main, l'importance d'aider par un message ou autre chose lorsqu'on passe par des difficultés. Aider, supporter par-dessous. Et là, j'aimerais juste lire un petit texte qui est l'édito de Vincenzo au mois de juillet. Comme les disciples se réunissaient dans les maisons, c'est leur hospitalité qui fixait les limites de l'évangélisation et offrait la participation à un culte chrétien. Si l'hospitalité jouait ce rôle nécessaire chez les premiers croyants, je crois qu'elle joue encore aujourd'hui un rôle prépondérant dans la faculté d'une communauté d'accueillir de nouveaux membres pour célébrer Dieu. Puis continue un tout petit peu plus loin. Alors, tout à fait d'accord avec toi, Vincenzo. C'était, je pense, une des forces de notre communauté, et je pense qu'elle continue, l'accueil. L'accueil des étrangers, l'accueil des personnes qui viennent pour la première fois, qui sont gênées, on ne sait pas où s'asseoir, etc. Montrer de l'intérêt. Et là, je pense qu'il y a quelque chose de primordial aussi pour notre communauté. On l'a fait, continuons à le faire. Et il y a une troisième expression qui est donnée dans ce texte, aller à la rencontre. Touchant cette expression, voici ce que j'ai trouvé dans un commentaire. Alors, il y a un tout petit aspect là derrière, un tout petit peu plus savant, et ce n'est pas dans ce but que je le fais. L'expression qui est donnée là, que vous voyez en grec, es apanthésine, c'est un texte qu'on va, disons, qui est dans un sens positif, aller à la rencontre de quelqu'un. Aller accueillir quelqu'un, aller voir accueillir un personnage important. Et de façon très interpellante, et ça que j'ai trouvé extraordinaire, cette expression telle qu'elle est là se retrouve trois fois dans le Nouveau Testament. Une fois ici, et deux fois dans des textes qui sont en rapport l'un avec l'autre. Le premier de ces textes se trouve dans Matthieu 25, au verset 6, la parabole des 10 vierges. Lorsque le cri s'élève, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Un texte peut-être eschatologique, n'est-ce pas? Peut-être qu'il s'est un peu réalisé au temps de Jésus, en partie, mais qui nous place dans quelque chose d'avenir. Je fais juste une petite parenthèse ici, je regrette, j'étais à Nazareth quand j'avais fait mon temps là-bas, et j'ai assisté dans un mariage musulman à quelque chose de semblable. La fiancée, l'époux qui arrivait et tous les gens qui ont appelé. C'était la parabole vécue, c'était extraordinaire. Mais cette même expression se retrouve dans 1 Thessaloniciens 4, 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Moi, ça m'a frappé. Vous vous rendez compte? C'est comme si, dans cette image, on avait le Seigneur qui vient en face de nous, qui viendra en face de nous et qui nous accueillera, moi je pense, l'un après l'autre, il y aura du temps, puis dans les airs, il y aura de l'espace, hein, on ne va pas se bousculer les uns les autres. Je pense qu'il accueillera chacun d'entre nous, ce ne sera pas la grande masse, mais chacun sera accueilli par lui et comprendra l'amour de Dieu et comprendra « comme je t'ai aimé ». Le Seigneur viendra à notre rencontre. Et j'ai trouvé cette expression absolument extraordinaire, raison pour laquelle je la partage avec vous. Allons un peu plus loin maintenant. Nous allons lire un petit bout du texte, en deux, trois parties. Je ferai assez rapidement. Après notre arrivée à Rome, on a permis à Paul de demeurer à part, c'est depuis le verset 16, avec le soldat qu'il gardait. Il demeura deux années entières au domicile qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient le voir. Il proclamait le règne de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance, sans empêchement. On peut dire que Paul, il reste le même. Il avait une certaine liberté là-bas, mais ce qu'il importait, c'était l'annonce de la parole. Il proclamait, il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans empêchement. Paul, il était lié à un gardien, il n'était pas libre vraiment, et pourtant là, il continue son travail d'annonce, ce qui lui importe par-dessus tout. Quels étaient les liens qu'il avait avec la communauté chrétienne? On n'en sait rien, il n'est rien mentionné. Est-ce qu'ils avaient accepté l'Épître aux Romains? A-t-elle été reçue, appréciée? On ne le sait pas. Qu'en est-il des liens avec la communauté juive? Alors, dans les versets suivants, je ne vais pas tout lire, il a pris très rapidement contact avec eux. C'est là-dessus que porte l'essentiel du texte. Et il dit, au bout de 3 jours, Paul convoqua les notables juifs. Quand ils furent réunis, il se mit à leur dire, « Mes frères, sans avoir rien fait contre le peuple ni contre les coutumes de nos pères, moi je suis prisonnier depuis qu'à Jérusalem j'ai été livré aux Romains. » Ensuite, il explique la situation. Ils lui répondirent, et ça c'est intéressant, « Nous n'avons pas reçu de Judée aucun écrit à ton sujet. Et aucun frère n'est venu pour rapporter ou dire du mal de toi. » Mais nous voudrions t'entendre parler toi-même de ce que tu penses, car nous savons que ce parti rencontre partout la contradiction. Ils lui fixèrent un jour, vint le trouver en plus grand nombre dans son logis, dans son exposé, il rendait témoignage au règne de Dieu et s'efforçait par la loi de Moïse et les prophètes de les persuader de tout ce qui concerne Jésus-Christ. Et cela depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient et les autres ne crurent pas. La parole de Dieu, l'annonce de la parole de Dieu. Il n'a pas fait des choses extraordinaires en soi. Il a parlé de ce qu'il connaissait, il a essayé de montrer ce qu'en était à partir de l'Écriture. Quelle a été l'acceptation? Eh bien, ça a été mitigé. Certains furent persuadés par ce qu'il disait et les autres ne crurent pas. Comme ils se retiraient en désaccord les uns avec les autres, Paul n'ajouta que ceci. « L'Esprit Saint a bien parlé à vos pères par l'entremise du prophète Esaïe. Va vers ce peuple et dis, vous avez beau entendre, vous ne comprendrez jamais. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez jamais, car le cœur de ce peuple s'est engourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur de voir avec leurs yeux, d'entendre avec leurs oreilles, de comprendre avec leur cœur et de faire demi-tour, je les aurai guéris. » Alors ce texte, on peut le prendre de 2 façons. Est-ce qu'il est dit d'une façon exaspérée, « Bah, une fois, je n'ai rien compris, etc. » »« On tape du pied, etc. » Ou bien, et moi je crois que c'est la 2e interprétation qui est là, d'Esaïe à Jésus et Paul, c'est-à-dire sur une période de 800 ans, en fait, cette question et cette réflexion et on peut dire, cette parole de Dieu revient inlassable à toujours. Pourquoi refusez-vous? Pourquoi refusez-vous d'écouter? Pourquoi refusez-vous de voir? Pourquoi vous détournez de la guérison? Moi, je dis, c'est le cœur de Dieu qui parle là, qui est triste, qui est profondément triste de ce qui se passe. J'ai tendu les mains vers toi, est-il dit ailleurs. Tu n'as pas voulu. Je voulais te guérir. Et tu n'as pas voulu. Et je trouve cette parole finalement magnifique. Elle n'est pas un reproche, elle est une constatation douloureuse. Et alors, que s'est-il passé après? Acte 29, mais acte 29 n'existe pas. C'est le dernier chapitre. Le chapitre se termine sur Paul qui annonçait, qui proclamait le royaume de Dieu, etc. Et là, on est un peu frustré. On aimerait savoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Paul? Est-ce que tu as été jusqu'en Espagne? Est-ce que tu as été libéré après ce 2 ans? Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? On n'en sait rien. Des sources extra-bibliques disent qu'il est quand même parti en Espagne. Il serait même arrêté à Marseille, vous rendez compte. Et puis il serait allé jusque là-bas. Mais on n'a pas de témoignage en Espagne, par exemple, du passage de Paul. Plus loin, il est question de la captivité. Captivité, la lettre aux Philippiens parle de Paul en captivité, mais où est-il? Est-il à Éphèse? Est-il à Rome? À Césarée? Ailleurs? On n'en sait strictement rien. Dans la 2e épître à Timothée, au chapitre 4, il écrit « Lors de ma première défense, personne ne m'a assisté, tous m'ont abandonné, qu'il ne leur en soit pas tenu compte. » Alors, abandonné par les frères de Rome? C'est facile, on ne sait pas. Donc, ne jetons pas la pierre sur ces frères-là. Une chose est certaine, l'Écriture n'essaie pas de nous renseigner de façon comme nous on aimerait aujourd'hui, avoir des renseignements sur ceci et cela. Ce n'est pas ça que l'Écriture intéresse. Sur Jésus, on n'a aucune description, on ne sait pas. Donc, l'Écriture veut venir jusqu'au centre des choses, l'œuvre de Dieu ici et là, mais ce qu'il en vient des personnes elles-mêmes, on ne sait pas. Ainsi, ni de Jean, ni de Pierre, ni d'autres, on ne sait finalement ce qui s'est passé pour eux. Il existe bien à Rome la basilique Saint-Paul hors les murs. On m'en mettrait la chaîne à laquelle il était attaché à son geôlier. Mais quel crédit donner à cela lorsqu'on voit le suaire de Turin, lorsqu'on voit l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem et tout le reste. Il y a des traditions. Que valent-elles? J'en sais rien. Pour nous, ce qui importe, c'est de voir plus loin. Parce que si ce texte se termine sur une ouverture, eh bien c'est notre histoire, c'est l'histoire de l'Église qui commence à ce moment-là. Et c'est notre histoire, parce que nous faisons partie de cette Église que Jésus-Christ a rachetée. C'est donc la porte ouverte sur notre histoire qui est là. Pour terminer, j'aimerais citer ce texte de Stéphanie à nouveau dans la lettre de nouvelles de fin juin. Vous voyez, même si je n'étais pas là, j'ai lu les lettres de nouvelles. Stéphanie écrit « Ce qui me préoccupe, c'est comment faire connaître l'Évangile dans notre contexte, la réflexion de Paul. Comment faire connaître le message de l'Évangile à ceux qui le cherchent, et j'ajoute à ceux qui ne le cherchent pas. Comment le leur communiquer d'une façon adaptée à notre temps? Auriez-vous des idées ?» J'ajoute, comment être une église de témoins, porteurs de la parole? Serait-ce le défi de Dieu pour notre communauté aujourd'hui, demain et dans la suite? Amen. Que le Seigneur vous bénisse.